Ben-Hur, chapitre 11, la bataille navale. Les 100 galères se rejoignirent dans la baie d'Avlémon, à l'orient de la ville de Cythère, et le tribun consacra une journée à les passer en revue. De là, il fit voile sur Naxos, la plus grande des Cyclades. Placée à mi-chemin entre les côtes de la Grèce et celles de l'Asie, cette île formait au milieu des flots comme un fort, d'où Arius pouvait défier les pirates, soit qu'ils se trouvassent dans la mer Égée, soit qu'ils eussent passé déjà dans la Méditerranée. Tandis que la flotte se dirigeait dans le plus bel ordre vers les rivières rocheuses de l'île, elle rencontra une galère venant de Byzance et dont le commandant put fournir à Quintus Arius tous les renseignements dont il avait besoin. Les pirates, disait-il, étaient tous originaires de Pont-Euxin. Ils avaient appareillé dans le plus grand secret et chacun ignorait encore leur existence, que déjà ils apparaissaient dans le golfe de Thrace et anéantissaient la flotte qui y stationnait. De là jusqu'à l'Hellespont, ils avaient fait main basse sur tout ce qui flottait à la surface des eaux. Leur escadre se composait de 60 galères, bien montées et bien armées. Un Grec commandait l'expédition et d'autres Grecs, connaissant parfaitement toutes les mers de l'Orient, lui servaient de pilote. Ils avaient tout pillé sur leur passage. Aussi, la panique causée par leur approche gagnait-elle les villes situées dans l'intérieur des terres. Ces villes fermaient leurs portes et plaçaient des gardes sur leurs remparts. Partout, les affaires étaient suspendues. Où se trouvaient maintenant ces pirates? C'était là ce qu'il importait avant tout de savoir. Après avoir mis à sac la ville d'Ephestia, située dans l'île de Lemnos, ils s'étaient dirigés vers l'archipel thessalique. Les dernières nouvelles disaient qu'ils devaient se trouver dans quelque golfe entre Eubée et la Hélade. Telles furent les réponses que reçut Arius. Alors les habitants de l'île, groupés au sommet des collines pour contempler le spectacle inusité que leur offraient ces 50 galères, cinglant de concert vers la côte, virent tout à coup celle qui marchait la première changer de direction et tourner vers le nord, suivie aussitôt par tout le reste de la flotte. Ils avaient entendu parler des ravages exercés par les pirates sur les rives voisines. Aussi suivaient-ils avec un intérêt palpitant et des sentiments de reconnaissance les voiles blanches qui s'en allaient et disparaissaient entre Rhodes et Syros. Ils savaient que leur délivrance dépendait de ces vaisseaux fuyant à l'horizon. Rome ne laissait pas sans défense les peuples conquis par elle. En échange de leurs contributions, elle assurait leur sécurité. Fort satisfait de tout ce qu'il venait d'apprendre, le tribun rendait grâce à la fortune qui non seulement venait de le renseigner sur les mouvements des pirates, mais encore les avait attirés dans une impasse où leur destruction paraissait d'avance certaine, et il comprenait l'honneur qui rejaillirait sur son nom s'il parvenait à capturer leur flotte et à l'anéantir d'un coup. Les hardis pillards du Pont-Euxin se trouvait entre l'île d'Eubée et les côtes d'Asie dans ce même canal qui avait autrefois offert un refuge aux vaisseaux du roi Xerxès, et les riches cités situées au bord des golfes voisins leur promettaient de splendides butins. Arius, calculant qu'il devait les rencontrer à la hauteur des Thermopyles, résolut de les surprendre à la fois par le sud et par le nord. Mais pour faire réussir ce plan, il fallait ne pas perdre un instant et s'avancer vers l'île avec toute la vitesse possible. À la tombée de la nuit, on distingua le mont Ocha qui dessinait ses contours sur le ciel assombri et le pilote signala l'approche de la côte eubéenne. Aussitôt, l'ordre fut donné d'arrêter toutes les rames. Puis Arius partagea sa flotte en deux divisions de force égale. Lui-même prit le commandement de celle qui devait entrer directement dans le canal, tandis que l'autre ferait force de rame pour tourner l'île. À la vérité, aucune de ces deux divisions n'égalait la flotte des pirates, mais elles avaient pour elles la discipline, impossible à obtenir d'une horde de brigands. En outre, le tribun comptait que si une des divisions était battue, l'autre rencontrerait l'ennemi déjà affaibli par sa victoire et pourrait facilement en avoir raison. Pendant ce temps, Ben-Hur occupait sa place accoutumée et sa rame, depuis son arrêt dans la baie d'Avlémon, lui paraissait légère. On apprécie trop peu, en général, le sentiment de sécurité que l'on éprouve lorsqu'on sait où l'on est et où l'on va. S'il est angoissant de sentir que l'on a perdu son chemin, il est bien plus pénible encore d'avancer aveuglément dans les régions inconnues. Ben-Hur s'était habitué en quelque mesure à ramer durant des heures, de jour et de nuit, sans connaître la destination de la galère. Cependant, le désir de la prendre ne s'était jamais entièrement éteint en lui, et maintenant il se rallumait sous l'empire de l'espérance que son entrevue avec le tribun avait fait naître dans son cœur. Les moindres bruits qui parvenaient à son oreille lui semblaient des voix, chargées de quelque message pour lui. Il fixait les yeux sur le petit espace lumineux au-dessus de sa tête par lequel il s'attendait à voir paraître quelque chose. Il n'aurait su lui-même dire quoi. Plus d'une fois, il se surprit sur le point d'adresser la parole à son chef, ce qui eût plongé certainement ce digne fonctionnaire dans un étonnement voisin de la stupeur. Durant ses années de captivité, il avait appris à calculer d'après les rares rayons du soleil qui glissaient sur le plancher à ses pieds la direction que suivait la galère, et depuis leur départ de Cythère, il avait étudié les variations de l'ombre avec une attention passionnée, car il devinait qu'ils se rapprochaient de la terre de Judée. Aussi, leur brusque évolution vers le nord lui causait-elle un désappointement poignant. Quant à la raison d'être de ce changement d'orientation, il cherchait en vain à la comprendre. Il ignorait, ainsi que tous ses compagnons, le but de leur voyage. Sa place était près des rames, que la galère fût en marche ou à l'ancre, et une seule fois depuis 3 ans, on lui avait permis de monter sur le pont, le jour où Arius avait ordonné qu'il se présentât devant lui. Aussi ne savait-il pas même que la galère qu'il contribuait à faire marcher était maintenant suivie d'une flotte entière. Quand la nuit fut venue, une vague odeur d'encens se répandit dans tout le navire. « Le tribun est à l'hôtel, » se dit Ben-Hur. « Serions-nous sur le point d'entrer en bataille ?» Il avait assisté déjà à bien des combats sans en avoir vu aucun, et les diverses manifestations que leur approche a provoquées à bord lui étaient familières. Ainsi, il savait qu'avant un engagement, comme avant un départ, on offrait toujours un sacrifice aux dieux. Les rameurs s'intéressaient aux résultats d'une bataille avec autant d'ardeur que les matelots et les soldats, quoique pour de toute autre raison. Ils ne pensaient guère aux dangers courus, mais ils songeaient qu'une défaite, au cas où ils lui survivraient, les ferait changer de maître, ce qui améliorerait peut-être leur misérable condition. Au moment voulu, on alluma des lanternes suspendues au-dessus des escaliers et le tribun descendit dans l'entrepont. Les soldats se revêtirent de leurs armures et l'on prépara les machines, les munitions, les jarres pleines d'huile inflammable, les corbeilles remplies de balles de coton roulées en forme de chandelle. Quand enfin Ben-Hur vit le tribun remonter sur la plateforme, son casque et son bouclier à la main, il ne douta plus de ce qui allait se passer et se prépara à subir la dernière des ignominies attachées à son état d'esclave. Chaque banc portait une chaîne terminée par des fers que le chef mettait au pied des rameurs, et ceux-ci n'avaient d'autre alternative que d'obéir passivement et de se laisser ainsi enlever toute chance de fuir en cas de naufrage. Cette humiliation qu'ils ressentaient tous vivement faisait bouillonner le sang de Ben-Hur. Il eût donné un monde pour y échapper. Le bruit des chaînes soulevées par le chef l'avertissait de son approche. Son tour allait venir, à moins que le tribun intercédât pour lui. Cette idée, dictée peut-être par l'égoïsme ou la vanité, s'empara tout à coup de son âme. Il se dit que si le Romain s'intéressait vraiment à lui, il lui épargnerait cette honte. En tous les cas, il allait savoir ce qu'il pouvait espérer de cet homme. Si au moment d'entrer en bataille, il pensait à lui, cette preuve qu'il le considérait comme étant supérieur à ses compagnons d'infortune lui permettrait de donner essor à ses rêves d'avenir. Il attendait avec anxiété l'instant où le chef arriverait à lui. Il entendait les fers grincer et il regardait le tribun couché sur son lit où il prenait quelque repos. Enfin, son tour vint et il s'apprêtait à tendre son pied avec le calme que donne le désespoir lorsque tout à coup le tribun s'éveilla, s'assit et fit signe à l'officier d'approcher. Une violente émotion s'empara du jeune juif. Le grand homme le regardait, mais il n'entendit pas ce qu'il disait. N'importe, il lui suffisait de savoir que la chaîne traînait toujours à terre et que le chef avait repris sa place devant sa table. Les coups qui y frappaient faisaient à Ben-Hur l'effet d'une musique enchanteresse. Aussi ramait-il avec une vigueur toute nouvelle. Le vaisseau avançait sur une mer dont aucun souffle ne ridait la surface. Tous ceux qui n'avaient rien à faire à bord dormaient. Arius sur sa plateforme et les matelots sur le plancher. Deux fois on relaya Ben Hur, mais lui ne dormait pas. Après 3 ans de ténèbres, le jour semblait prêt à poindre sur sa route. Ce qu'il entrevoyait était pour lui ce qu'aurait été la terre pour un marin perdu sur la haute mer ou la résurrection pour un mort. Dans un moment pareil, comment aurait-il pu songer à dormir ? L'espoir s'élance vers l'avenir en se servant du passé et du présent comme de points d'appui. Celui de Ben Hur avait sa source dans les faveurs du tribun, mais emportait le jeune homme vers des horizons lointains où le bonheur lui apparaissait non seulement comme une promesse, mais comme une réalité. Il voyait déjà ses souffrances effacées. Il croyait posséder de nouveau son palais et ses biens. Il lui semblait sentir autour de son cou les bras de sa mère et de sa sœur, et il éprouvait un sentiment de félicité. Il ne s'arrêtait pas à la pensée de la bataille imminente, et la joie qui inondait son cœur était si complète qu'il n'éprouvait plus aucun désir de vengeance. Messala, Gratien, Rome, tous les souvenirs pleins d'une amertume passionnée qui s'attachait à ces noms détestés étaient oubliés. Ils planaient bien au-dessus des misères de la terre, dans des régions sereines où il entendait chanter les étoiles. L'obscurité profonde qui précède l'aurore régnait sur les flots et tout allait bien à bord quand un homme descendit précipitamment dans la cabine et vint éveiller Arius. Il se leva, mit son casque sur sa tête et s'arma de son épée et de son bouclier, après quoi il s'avança vers le chef des matelots. « Les pirates sont tout près de nous. Que chacun se prépare au combat, » lui dit-il. Puis il monta sur le pont, aussi calme et confiant que s'il se fût rendu à une fête. Chacun s'éveilla sur la galère et tous les officiers se rendirent à leur poste. Les soldats de marine, absolument équipés comme des légionnaires, montèrent sur le pont. L'on préparait en hâte les javelots, les flèches, les provisions d'huile et de balles de coton. L'on allumait des lanternes, on remplissait d'eau des grandes outres. Les rameurs, qui n'étaient pas de service, restaient groupés autour de leur chef. Ben Hur se trouvait au nombre de ceux-là. Il entendait au-dessus de sa tête retentir le bruit des derniers préparatifs, les matelots déployant la voile, tendant des filets au-dessus du bassin gage, mettant les machines en ordre, puis le silence se fit sur la galère, ce silence qui précède la tempête. Tout à coup, à un signal donné, les rames restèrent immobiles. Qu'est-ce que cela signifiait ? Parmi les 120 esclaves enchaînés au banc, il ne s'en trouvait pas un seul qui ne se posât cette question. Il n'était encouragé au devoir par aucun sentiment de patriotisme, aucun désir de gloire, et certes, un frisson d'horreur pouvait bien les secouer, car le plus abruti d'entre eux savait qu'une victoire ne servirait qu'à river plus inexorablement sa chaîne, tandis que si le bateau venait à couler ou à brûler, il partagerait son sort. Il n'osait s'informer de ce qui se passait au dehors, ni demander quel ennemi l'on allait combattre. Qui sait si l'un ou l'autre n'aurait pas reconnu dans ses rangs des amis, des frères, des compatriotes ? Le cas était possible, probable même, et c'est pour cette raison principalement que les Romains enchaînaient au moment du danger ces pauvres êtres sans défense. Mais il n'avait guère de temps de songer à toutes ces éventualités. Un grand bruit de rames attira l'attention de Ben Hur. L'Astra ballotta pendant un moment comme si elle eût été entourée de vagues. Aussitôt, il comprit qu'une flotte entière manœuvrait derrière elle et se rangeait en ordre de bataille. À un second signal, toutes les rames retombèrent dans l'eau et l'Astra reprit sa marche en avant. Sur le pont et dans l'intérieur du navire, chacun se taisait et on se préparait à soutenir un choc. On eût dit que la galère elle-même se recueillait comme un tigre prêt à bondir sur sa proie. Dans une situation comme celle-là, il est difficile d'apprécier la durée du temps. Aussi Ben Hur ne se rendait-il pas compte du chemin qu'ils avaient parcouru, quand il entendit le son clair et longuement répercuté des trompettes. Le chef se mit à battre la mesure plus vite. Les esclaves faisaient voler leurs rames. La galère frémissait sous leur effort. La fanfare, placée sur l'arrière-pont, redoublait d'éclat. À l'avant, on entendait des voix tumultueuses, de plus en plus bruyantes. Tout à coup, une secousse violente fit tomber de leur banc plusieurs des rameurs. Le bateau recula, s'arrêta, puis avança de nouveau avec une force irrésistible. Des hurlements de détresse dominaient la voix des cuivres, et l'on entendait un bruit sinistre, comme celui de quelque chose qui craque, se déchire et se brise. Au même moment, une clameur de triomphe retentit sur le pont. L'éperon de la galère romaine venait de couler bas un vaisseau ennemi. Mais qui donc était-il, ce que la mer engloutissait ? D'où venait-il et quelle langue parlait-il ? Sans un instant de trêve, l'Astra poursuivait sa course folle. Et maintenant, quelques matelots s'occupaient à imbiber d'huile les rouleaux de coton qu'ils tendaient à leurs camarades postés au haut des escaliers. Le feu allait ajouter à l'horreur du combat. La galère penchait de telle façon que les rameurs, dont les bancs se trouvaient adossés à la paroi opposée, se maintenaient à grand-peine en leur place. De nouveau, le cri de victoire des Romains s'éleva dans l'air, aussitôt dominé par des vociférations désespérées. Un bâtiment ennemi venait d'être soulevé au-dessus des flots par l'énorme harpon de la galère et précipité dans l'abîme. Le vacarme augmentait de tous côtés. De temps en temps, on entendait un craquement lugubre accompagné d'exclamations d'effroi qui annonçaient qu'un navire venait de couler à pic avec toute sa cargaison humaine. Mais la victoire n'était pas certaine encore, et souvent l'on apportait dans l'entrepont un Romain encore revêtu de son armure et tout sanglant ou même mourant. Parfois aussi des bouffées de fumée chargées d'une odeur de chair carbonisée s'engouffraient dans la cabine, et Ben-Hur, en respirant cet air étouffé, se disait qu'à quelques pas de lui, des rameurs brûlaient, avec la galère à laquelle ils étaient inséparablement liés. Tout à coup, l'Astra, qui n'avait pas cessé de marcher, stoppa. Les rames furent arrachées aux mains des rameurs, et ceux-ci jetés en bas de leur banc. Sur le pont, on entendait un grand bruit de pas pressés, et les deux parois du bateau craquaient d'une façon inquiétante. Au plus fort de la panique, un homme tomba, la tête la première, dans la cabine, et vint s'affaler au pied de Ben-Hur. C'était un barbare du Nord, au teint blanc, aux cheveux clairs. Que faisait-il donc là ? Une main de fer l'avait-elle arraché du pont du navire voisin ? Non. L'Astra venait d'être abordée, et la bataille se livrait maintenant sur son propre pont. Un frisson de terreur secoua le jeune juif à la pensée du danger que courait Arius. S'il était tué, avec la vie du tribun, s'évanouirait pour toujours tout espoir de revoir sa mère, sa sœur, et dans sa détresse, il s'écria « Dieu d'Abraham, protège-le !» Il jeta un regard autour de lui. La confusion était à son comble dans la cabine. Les rameurs demeuraient immobiles et comme paralysés. Des hommes affolés couraient çà et là. Seul le chef restait assis sur sa plateforme, attendant avec un calme imperturbable les ordres du tribun. Il frappait toujours ses coups réguliers. Il les frappait en vain, mais donnait l'exemple de cette discipline sans égale qui avait jusqu'alors conquis le monde. Cet exemple ne fut pas perdu pour Ben-Hur. Il rassembla tout son sang-froid et chercha à se rendre compte de la situation où il se trouvait. L'honneur et le devoir retenaient ce Romain sur sa plateforme. Mais lui, qu'avait-il à faire avec l'honneur ou le devoir ? Et s'il mourait en esclave, à qui cela profiterait-il ? Au contraire, le devoir pour lui consistait à vivre. Sa vie appartenait à sa mère et à sa sœur. Il les voyait toujours tendre les bras vers lui, implorant son secours, et à tout prix il voulait répondre à leur appel. Hélas, il tressaillit en se rappelant que le jugement dont il portait le poids avait toujours force de loi, et qu'aussi longtemps qu'il ne serait pas rapporté, il ne lui servirait de rien de fuir. Il n'y avait pas dans tout le vaste monde un endroit où le bras de l'empereur ne l'atteindrait pas, et jamais il ne pourrait habiter la Judée et se consacrer à la tâche à laquelle il voulait vouer sa vie si la liberté ne lui était pas officiellement rendue. Dieu du ciel, comme il avait attendu ce moment, comme il l'avait demandé dans ses prières, et comme l'exaucement avait tardé, et maintenant que grâce aux promesses du tribun, il croyait être prêt d'obtenir cette liberté, son bienfaiteur allait-il donc lui être enlevé ? S'il mourait, tout serait fini, pour lui aussi. Les morts ne reviennent point pour tenir les promesses faites par les vivants. Mais non, cela ne serait pas, ou du moins, si Arius devait périr, il partagerait son sort, préférant mille fois mourir que de continuer à mener l'existence d'un esclave. Encore une fois, Ben-Hur regarda tout autour de lui. Sur le pont, la bataille continuait. La galère serrée entre deux vaisseaux ennemis courait à chaque instant le risque d'être écrasée. Les rameurs faisaient des efforts frénétiques pour se débarrasser de leurs fers et, n'y réussissant pas, ils poussaient des hurlements de forcenés. Les gardes s'étaient enfuis. La discipline n'existait plus. Le désordre régnait à sa place, partout, excepté sur la plateforme où le chef était toujours assis, fidèle à sa consigne. Ben-Hur lui jeta un dernier regard, puis il s'élança en avant afin de se mettre à la recherche du tribun. Il atteignit l'escalier d'un bond, et déjà il entrevoyait le ciel, embrasé par la lueur des incendies, la mer couverte de vaisseaux et d'épaves, et le pont sur lequel les pirates semblaient être les plus nombreux, quand tout à coup la marche sur laquelle il se trouvait se déroba sous ses pieds et lui-même fut précipité sur le plancher de sa cabine qui se soulevait et volait en morceaux. En même temps, tout l'arrière de la coque s'ouvrait et la mer, qui semblait avoir guetté ce moment, s'engouffrait dans le bâtiment en écumant et en bouillonnant. Autour de Ben-Hur, tout était maintenant ténèbres. Il serait faux de dire qu'il faisait des efforts pour se maintenir sur l'eau, car malgré sa force extrême et l'instinct de conservation, il avait perdu connaissance. Il tourbillonna un moment dans la cabine, puis le remous causé par le bateau qui s'enfonçait le rejeta à la surface des flots avec toutes sortes de débris flottants. Presque machinalement, il en saisit un et s'y tint cramponné. Il lui semblait avoir passé une éternité au fond de la mer. Enfin, il secoua la tête, se frotta les yeux, et après s'être assis sur la planche à laquelle il devait son salut, il essaya de distinguer ce qui l'entourait. La mort qu'il avait cherchée dans les flots sans l'atteindre n'abandonnait pas sa proie. Il la voyait revêtue de formes diverses ramper autour de lui. Une épaisse fumée dans laquelle les vaisseaux en flammes faisaient ici et là de brillantes trouées traînait sur la mer comme un brouillard. La bataille durait toujours, mais Ben-Hur n'aurait pu dire à qui la victoire appartenait. De temps à autre, une galère passait près de lui. Plus loin, il en voyait vaguement qui se heurtaient les unes contre les autres, mais un danger plus imminent le menaçait. Au moment où l'Astra sombrait, son propre équipage et ceux des deux galères qu'il attaquait se trouvaient sur le pont, engagés dans une lutte corps à corps qui se continuait encore sur les épaves auxquelles un certain nombre d'entre eux avaient pu s'accrocher. Tous ces naufragés se disputaient avec l'énergie du désespoir la possession d'une planche ou d'une poutre. Ben-Hur, persuadé qu'aucun de ses hommes, armés pour la plupart, n'hésiterait à le tuer pour s'emparer du frêle radeau sur lequel il se soutenait, faisait tous ses efforts pour leur échapper. Mais en s'éloignant d'eux, il courut le risque d'être écrasé par une galère qui passa si près de lui que les vagues qu'elle soulevait le couvrirent de leur écume. Il faisait manœuvrer à grand-peine sa planche et il sentait que l'espace d'une seconde suffirait pour le perdre. Soudain, il vit paraître à la portée de son bras un casque brillant, puis deux mains auxquelles il ne serait pas aisé de faire lâcher prise si elle parvenait à s'emparer du bord de la planche. Saisi de frayeur, Ben-Hur essaya de se détourner, mais le casque reparut ainsi que les deux bras qui battaient l'eau avec frénésie. Enfin, la tête se retourna, laissant apercevoir un visage d'une pâleur spectrale, une bouche ouverte, des yeux fixes. C'était horrible à voir. Mais Ben-Hur n'en poussa pas moins une exclamation de joie, et au moment où le noyé allait disparaître dans les flots pour la dernière fois, il le saisit par la chaîne qui retenait son casque et l'attira à lui. C'était Arius, le tribun, qu'il venait de sauver, mais pendant un moment il eut besoin de toutes ses forces pour maintenir sa tête au-dessus des vagues. La galère avait passé au milieu de toutes ces épaves flottantes, et dans le sillon qu'elle laissait derrière elle, rien de vivant n'apparaissait plus. Un craquement sourd, suivi d'un cri, se fit entendre. Ben-Hur leva les yeux, et avec une joie sauvage, il constata que l'Astra était vengée. Le jeune homme aurait donné beaucoup pour savoir qui étaient les vainqueurs. Il comprenait que sa propre vie et celle d'Arius dépendaient de cette question. Il avait réussi à faire passer l'extrémité de la planche sur laquelle il se trouvait sous le corps du tribun. Ses efforts tendaient maintenant à l'y maintenir. L'aube blanchissait la nue à l'orient, et il la voyait grandir avec une impatience mêlée d'anxiété. Quand le jour serait venu, se trouverait-il entouré de Romains ou de pirates? Dans ce dernier cas, Arius était perdu. Enfin, il aperçut la terre, mais beaucoup trop éloignée encore pour qu'il pût songer à l'atteindre. Quelques hommes se maintenaient encore comme lui au-dessus de l'abîme. On voyait aussi flotter çà et là des morceaux de bois fumant. À une petite distance d'eux, une galère se balançait immobile. Sa grande voile retombait en lambeaux le long du mât. Plus loin passaient des ombres blanches qui pouvaient être les voiles des vaisseaux fuyant le lieu du combat ou de grands vols d'oiseaux. Une heure s'écoula ainsi, et l'angoisse de Manur allait croissant. Si le secours tardait encore, il perdait tout espoir de voir Arius revenir à la vie. Par moments, il se demandait s'il était déjà mort. Il lui enleva à grand-peine son casque, puis sa cuirasse, et à son inexprimable soulagement, il découvrit que son cœur battait encore. Il ne lui restait autre chose à faire qu'à attendre, et, selon la coutume de son peuple, à prier.